Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Chaque jour de 16h à 18h, oui, sur Europe 1, ils nous donnent rendez-vous pour une chevauchée bon enfant dans le but de se cultiver, de s'informer, mais avec le sourire. C'est Mathieu Noël, à ses côtés, sa complice Eva Rock. Et puis nos journalistes compétiteurs prêts à décrocher le titre de chroniqueur du jour à la suite d'un vote, le vôtre, via les réseaux sociaux, celui de l'invité aussi, hein, qui joue un petit peu le rôle d'arbitre. Et tout ça, ça se passe en semaine. Mais le week-end, on se remet dans l'ambiance avec aujourd'hui parmi les invités Denis Brognard, Jeanne Chéral, Manu Payet, Cédric Clapiche et pour commencer Éric Emmanuel Schmitt, invité notamment pour parler de la pièce dans laquelle il joue, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Face à lui, les journalistes d'Europe 1 prêts à batailler, parmi lesquels Nicolas Caro.
Et ça, c'est la musique pour planter le décor quand on présente un intello à Europe 1. Je précise qu'il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, de la BO d'un porno ukrainien des années 70, mais du générique de Ce soir ou jamais, la célèbre émission de Frédéric Taddeï. Voici Nicolas Caro, notre expert livre. Et Nicolas, vous nous parlez d'une pièce qui a eu encore plus de succès que celle d'Éric Emmanuel Schmitt. Ce qui est couillu, sachant que c'est quand même notre invité aujourd'hui avec son vote contrat triple.
Ben, oui, puisque Éric Emmanuel est romancier et dramaturge, et donc j'essaie de faire au mieux. L'auteur, c'est Agatha Christie. Et la pièce, c'est La Souricière, et c'est une pièce mythique, écrite en 47. Elle a été jouée pour la première fois en 1952 à Londres, au Théâtre Saint-Martin. Depuis, les représentations n'ont jamais cessé. Elle détient le record avec près de 30 000 représentations. Oh. Donc c'est une enquête, puisque c'est du pur Agatha Christie. C'est un cluedo avec des invités dans un manoir. L'un meurt et un autre est coupable. On appelle ça un whodunit. Qui a fait ça? Comme les Sherlock Holmes, par exemple. C'est un genre à part, le whodunit. J'aime beaucoup cette expression. C'est l'enquête policière de base,
vous le dites bien.
À l'ancienne. Whodunit. Mais hyper bien ficelé. Le problème avec ce genre d'histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas que la fin s'ébruite.
Bah oui, donc
sinon,
comment elle peut tourner
la pièce? Et c'est pour ça que d'abord, pendant
Titanic
très
marché,
longtemps, la pièce était jouée uniquement dans ce théâtre londonien, à l'exception de rares exportations à l'étranger de temps en temps, une fois par an. Ça s'ouvre un peu maintenant, puisque la pièce va être donnée en français à Paris à partir du 10 septembre à la Pépinière. Mais surtout, pour préserver le mystère, la dernière réplique de la pièce demande clairement aux spectateurs d'être complices et d'accord. De ne jamais révéler le secret.
Mais ce que vous nous dites, c'est que cette pièce n'a jamais été jouée en France ?
Si, ça c'est arrivé très rarement.
D'accord.
Voilà. Alors, on se dit que ça va finir de toute façon par s'ébruiter. Et pas tant que ça, puisque les spectateurs, par respect peut-être, n'ont jamais été assez nombreux pour vendre la mèche et spoiler le spectacle. Jusqu'en 2010, en tout cas.
Et les réseaux
et là,
sociaux.
C'est le drame. Pire, c'est la page Wikipédia
anglophone. Non.
Dans son article sur la pièce qui révèle quasiment l'identité du meurtrier, en tout cas, elle donne assez d'éléments pour le trouver sans problème. Énorme polémique et la réponse de Wikipédia, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la page.
Ouais.
En tout cas, sur le Wikipédia français, la consigne est respectée. Au passage, c'est le petit-fils, Matthew Pritchard, le petit-fils d'Agatha Christie, qui détient les droits puisque sa grand-mère les lui a donné comme cadeau d'anniversaire pour ses 9 ans, ce qui a fait lui un millionnaire.
Oui, c'est sûr que c'est assez pratique. Vous l'avez vu cette pièce?
Oui, The Mousetrap.
Ah oui, The Mousetrap, ouais. Évidemment. Ouais. On ne la fait pas, Éric Emmanuel.
Et quel est l'assassin?
Tout de suite.
Je ne le dirai pas.
En exclusivité.
Une fois, moi, une amie me parlait d'un livre d'Agatha Christie, elle me disait... que je commençais, je vous dis pas le titre parce que je veux pas vous refaire le coup, et je lui dis tiens, je suis en train de lire celui-ci. Elle me dit, ah oui, c'est celui dont le narrateur est l'assassin.
Oh c'est affreux.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Le rendez-vous quotidien qui muscle les zygomatiques, l'équipe est sauvage, donc avec Mathieu Noël, Eva Rock bien sûr, sa comparse, et un invité pour départager nos journalistes compétiteurs. Alors l'invité à présent, c'est Denis Brognard qui va animer le MAC de la Coupe du Monde de rugby sur TF1 du 20 septembre au 2 novembre. L'animateur de Koh-Lanta retrouve donc sa casquette de journaliste sportif.
Denis Brognard, les amoureux de l'Ovalie le savent, s'il est très difficile de battre l'Argentine ou l'Angleterre, il est encore plus difficile de battre Eva Rock sur un quiz.
C'est vrai.
Voici qui veut gagner un set de table Alain Aco. Denis Brognard, en hommage à l'épreuve des poteaux, en particulier, et au sadisme en général qui règne dans Koh-Lanta, le quiz portera...
Non, arrêtez de parler de sadisme, Mathieu. S'il y a bien un mot que je déteste, c'est celui-ci. Gardez-le pour votre émission.
Vous allez voir.
Sur le fait de départager vos chroniqueurs.
Vous n'y échapperez pas quand même. Un quiz sur les performances physiques inhumaines. C'est un vrai faux. Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Denis, Guy Yang s'est suspendu à une perceuse accrochée au plafond. Plus il appuyait sur la gâchette, plus il tournait vite. Il a fait 141 tours en une minute, vrai ou faux?
Ça veut dire plus, ça veut dire près de 3 tours par seconde.
Ah non,
c'est un truc de dingue. Allez, parce que ça m'amuse, je dis vrai.
Et vous avez raison. Il a réalisé cette performance totalement inutile à la télévision allemande, où on voit décidément de belles choses. Il était d'ailleurs opposé à un Français qui n'a réussi, lui, à faire que 83 tours.
Ça peut être une prochaine épreuve de Colombo.
Mais voilà,
pourquoi
mais je vous fournis des idées clés en main. Eva Rock, Joseph Todling est autrichien. Et il a le record de la plus longue distance parcourue tirée par terre par un cheval alors qu'il était en feu. Joseph, pas le cheval. D'après vous, est-ce vrai ou faux ?
Mais non, le pauvre garçon en feu, non, c'est faux ça. C'est horrible comme histoire.
Mais n'oubliez pas qu'on est en Autriche. Tout est possible, la réponse est vrai.
C'est pas vrai.
500 mètres, record impressionnant, même s'il est le seul à avoir tenté de le faire. Joseph est cascadeur professionnel, il a également le record de durée en torche humaine sans assistance respiratoire. 5 minutes 41. Il y a vraiment des fous. Attention,
ça me rappelle un candidat de Ninja Warrior qui était arrivé et qui nous avait fait la démonstration. Il était champion du monde du cassé de noix avec ses fesses.
Ah oui.
Alors attention, vous répondez ensemble les amis. Une question, trois propositions. En juillet dernier, France 3 a consacré un reportage très impressionnant à Jimmy Defresne, un Belge de 48 ans. Quel record a-t-il établi ? 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes. 2. Il a joué du clairon en faisant le cochon pendu pendant 3 heures. Ou 3. Il a mangé son poids en frites en 8 jours.
Moi je dis 3.
Les frites en Belgique, en 8 jours.
Ah oui, moi j'aurais dit le clairon en cochon pendu là.
Fiasco total pour vous. C'était la réponse 1. Il est resté 120 heures assis sur des toilettes.
Bah,
c'était pour la bonne cause.
Record.
Il faisait payer. Ben, essayez de rester 120 heures sur les toilettes.
Bah, vous dormez, c'est pas grave.
Vous dormez sur les toilettes, mais qu'est-ce que vous racontez ?
Bah, vous pouvez dormir assis, donc c'est pas un exploit.
Il faisait payer les gens qui se prenaient en photo avec lui sur les toilettes. Il a récolté 250 euros pour une offre caritative. Ben, 250 euros en 120 heures.
Oh, il est pas très fort.
Il aurait pu récolter
quand même,
plus. Hein.
Vous savez à quoi ça fait penser ? Vous avez vu ce film avec Paul Verhoeven, Les convoyeurs attendent.
Ah, oui.
Hein, on était en Belgique déjà.
Ouais.
Et là, ce type voulait. Il était garde barrière et un peu journaliste et il avait l'objectif de rentrer dans le livre des records, mais il n'avait aucune compétence et il avait demandé à son fils adolescent de passer le plus de fois une porte d'un côté et de l'autre pendant 24 heures et il avait monté un châssis de porte dans son jardin. C'était terrible.
Je vous recommande ce film dont vous entendez de temps à autre des répliques dans notre émission.
Ouais, j'adore. Eva Rock, en noir et blanc, magnifique.
C'est un soldat de la marine chinoise qui a le record de non-clignement des yeux. Il a réussi à rester 57 minutes sans bouger un cil. Vrai ou faux ?
Ah, j'irai vrai, mais c'est horrible.
Et c'est vrai, Eva.
Ah ouais.
Il est technicien balistique, il a tenu 57 minutes et 24 secondes. Le précédent record était de 40 minutes. Denis Brognard, attention, c'est la question qui va vous départager, à 66 ans. Shelby Morris vit à Memphis. Elle a battu un record en mars 2014. Elle a mangé 17 œufs, mais avec la coquille.
Oh,
vrai
ou
faux ? Denis, tout se joue là.
Ouais, je sais, Mathieu. Franchement, depuis le début, il n'y a que des bonnes réponses. Il fallait toujours dire vrai.
Ouais.
Donc, je vais continuer à dire vrai. Si vous me dites que c'est faux, je le prendrai très très mal. Donc, je dis vrai, mais je ne comprends pas comment on peut bouffer autant d'œufs avec des coquilles. Mais bon.
Eh bien, je vous dis faux, Denis. Eh oui. C'est comme ça. Ouh, il est génial ce jingle loose. Qui gagne le quiz ?
On a égalité.
Égalité parfaite.
Bah, oui,
personne ne remporte le set de table à la
cause. On m'a reproché très souvent ça.
C'est-à-dire
le égalité parfaite. Une égalité est forcément parfaite.
Ah oui,
c'est vrai, c'est juste.
Oui.
J'ai dit égalité
parce
parfaite.
Mais moi je disais souvent
c'est parce
ça
que
aussi.
Égalité parfaite. J'ai trop regardé Koh-Lanta, ça
ben
doit
voilà.
être pour ça.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël avec nous pour se détendre et se cultiver, entouré d'Eva Rock bien sûr et d'un invité. Ici le réalisateur Cédric Lapiche, invité à l'occasion de la sortie de son film « Deux mois » et face à lui, Anis Mbida en compétition pour le titre de chroniqueur du jour.
Un spécialiste innovation dont il vous faudra vous méfier car pour séduire l'invité, il est prêt à tout, comme par exemple à faire croire à Renaud Capuçon, notre invité mardi dernier, qu'il partageait sa passion pour les arts lyriques.
Moi, je vais être obligé de vous quitter un peu tôt, malheureusement.
Ouais, toi, tu vas à l'opéra, après ?
Oui, enfin, je vais pas à l'opéra, je vais à Opéra.
Tu vas à Opéra dans une pizzeria, en fait.
C'était bien tenté, hein. Et il voulait laisser planer le doute, et puis finalement, c'était une pizzeria, hein. C'était Pizza Pino. Alors, Anissé, de quoi vous nous parlez aujourd'hui, mon cher Anissé ?
Bah, j'ai essayé de faire un petit peu d'infos, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour changer, terminer avec quelque chose d'un peu plus sérieux qu'on va pouvoir raconter un peu ce soir. Et puis surtout, moi aussi, c'est une histoire feel good. Je vais me faire une histoire feel good. On nous dit que l'intelligence artificielle va nous asservir, va nous transformer en esclaves, que les intelligences artificielles vont devenir supérieures à l'intelligence humaine. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas avec longtemps. On a beaucoup d'arnaques à l'intelligence artificielle. Il y en a quasiment une par mois. La dernière en date, c'est celle de la société qui s'appelle KiwiBots. Elle fabrique des petits robots livreurs, vous savez, ça se passe aux États-Unis. Hein, on met son Deliveroo, son Uber Eats dedans et elle vient vous livrer directement chez vous, cette petite robot. Sauf qu'on s'est rendu compte de quoi ? Et ben qu'en fait, ces robots livreurs autonomes étaient pilotés par des Colombiens payés 2 euros par heure.
Des Colombiens nains alors ? Des
petits Colombiens ? Non, ils étaient pilotés, télécommandés à distance en fait, ces robots. Non, ils n'étaient pas à l'intérieur.
Ça aurait été encore plus. Ça aurait été encore plus.
Parce que c'est très très compliqué de faire des robots qui ne rentrent pas n'importe où dans les gens, qui ne restent pas coincés sur un trottoir. Donc ils étaient télécommandés.
Certains robots rentrent dans les gens.
Hein. Et va à distance.
Qu'est-ce que vous dites ?
Non, j'ai dit une horreur.
Mais il y a énormément d'exemples. Par exemple, une société qui s'appelle Engineering AI qui a lancé une application. Vous racontez, j'aimerais bien avoir une application mobile. Je suis un grand cinéaste, je veux une application mobile. Et il la fabrique tout seul avec une intelligence artificielle. Sauf qu'on s'est rendu compte que là encore, c'était des petits Indiens qui, eux, programmaient à la main derrière. Et des exemples comme ça, il y en a quasiment toutes les semaines qui sortent. Vous avez un service qui convertit vos messages vocaux en texte. Oui. En fait, c'était des humains qui tapaient texte derrière. Il y a des faux robots conversationnels. On a l'impression de faire un chatbot, c'est-à-dire qu'on parle à un robot. Et en fait, c'était des vraies personnes humaines qui vous répondaient derrière. Des exemples comme ça, il y en a des tas et des tas et des tas tous les jours.
Bah, c'est bien beau vos exemples, Anissé, mais ça, ce sont des petites startups en manque de financement.
Eh ben non, c'est vrai que quand on dit intelligence artificielle aujourd'hui, on n'a qu'à secouer un arbre, il y a des financements qui tombent. Mais non, non, non. Vous vous souvenez peut-être de Google. Google, on en a parlé ensemble.
Oui, je me souviens de Google. Il est pas très bon, mais quand même.
Non, mais ici même, chez Europe 1, on avait parlé de ce nouveau service que Google avait sorti, où l'ordinateur, l'intelligence artificielle, pouvait prendre un rendez-vous à notre place.
Ah oui, tout à fait.
Parler au téléphone, c'était bluffant. Et elle pouvait appeler un service pour réserver un hôtel, réserver un coiffeur,
c'était
etc.
C'était du bluff.
Eh bien, ils ont avoué que 40% du temps, c'était des êtres humains, des téléopérateurs humains qui faisaient les opérations. Parce que là, il se trouve que cette intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Il faut passer la main. Vous avez aussi entendu toutes les polémiques sur les Amazon Alexa, sur les Siri qui nous écoutent. Pourquoi ils nous écoutent ? Eh bien, parce que souvent, on pose des questions, ils répondent complètement à côté. C'est remonté automatiquement à des opérateurs humains qui, eux, font la connexion, ils font les relations directement à la main, comme nous, on ferait. Donc, on nous fait croire que ces systèmes-là sont extrêmement intelligents, qu'ils sont extrêmement perfectionnés, mais on oublie qu'à la base même de cette intelligence artificielle, il y a un système qu'on appelle le deep learning. Alors, qu'est-ce que c'est que le deep learning ? C'est l'apprentissage profond, comme on dit, mais cet apprentissage-là est fait grâce à des humains. Ce sont des humains qui disent à l'intelligence artificielle, bah, ici, ça, c'est un arbre, ici c'est un feu rouge. Et il y a besoin des humains derrière à chaque fois pour faire ces opérations. Donc plus l'intelligence est bonne, et ben plus il y a d'humains derrière malheureusement.
Finalement c'est rassurant quelque part.
Ben, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire feel good.
Cédric Clapiche, on parlait l'autre jour de ça avec Mathieu Charry, notre spécialiste cinéma. Il paraît qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle qui va se mêler du montage des films. Les séances, les fameuses séances de projection pour voir si ça plaît au public. Il y aura toujours un public apparemment, mais il y a une caméra qui vous filme, reconnaissance faciale. On voit à quel moment vous riez, à quel moment vous bâillez. Et ensuite, on vous dit, monsieur Clapiche, le film est bien, mais là, à cet endroit, il y a un bâillement, il va falloir corriger le montage. Ça, vous accepterez cette dictature-là ou pas ?
Si c'est des Mexicains qui regardent, qui disent, moi j'ai l'impression qu'il a pari à ce moment-là.
C'est l'équipe des Césars derrière, qui est derrière, qui est en train de colmater. Mais vous savez qu'on est tous mis à contribution par les intelligences artificielles. Vous savez, quand on vous demande sur Internet, est-ce que vous êtes un humain ? Ils demandent quel est le feu rouge ? Est-ce que c'est un feu rouge ou c'est le feu rouge ?
Et moi, c'est là que je réalise que je ne suis pas un humain parce que j'arrive jamais à trouver la bonne réponse.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et oui, c'est tous les jours, même le week-end. On retrouve Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Tous les jours, donc, ils s'entourent de journalistes d'Europe 1, journalistes compétiteurs, qui tentent de convaincre ou de séduire l'invité du moment. Et c'est au tour de Manu Payet, l'humoriste et comédien, de se prêter au jeu. Comédien, mais qui a commencé à la radio.
Manu Payet, vous avez en effet commencé votre carrière à la radio, pas n'importe laquelle, Énergie Réunion. Quand vous revenez dans un studio comme ça, ça fait un pincement au cœur ou vous vous dites « Oh là, heureusement que j'ai arrêté ce métier ».
Les deux. Les deux, pour être très honnête, les deux. Je suis en train de faire ce pour quoi j'ai été initialement formé, c'est-à-dire de la radio, que j'ai fait de manière à peu près correcte et honnête, en tout cas, pendant des années. Pour vous parler de ce pourquoi je pense que je suis un peu né quelque part, c'est-à-dire la scène.
La scène.
Donc c'est super.
Sur la période radio, votre période radio, Manu, il y a quand même une anecdote fabuleuse que je ne me lasse pas d'entendre. Quand vous étiez animateur à La Réunion, donc une anecdote qui en dit long sur votre rapport au sommeil. Vous êtes quelqu'un qui dort beaucoup, du coup pour présenter une matinale, c'était pas idéal en fait.
Oui, enfin je suis quelqu'un qui dort beaucoup, je dors plus mon ami, ça y est, j'ai fait un film et après j'ai eu un enfant. Alors, déjà est derrière nous, mais alors vraiment, c'est-à-dire que même quand elle n'est pas à la maison, je ne dors plus, c'est terminé tout ça. En revanche, je suis toujours en retard.
Et oui.
Et ça, je tiens à mettre l'accent là-dessus.
Et vous
l'étiez
à la matinale aussi.
Ah bah la matinale, en retard, c'était le prénom. C'est-à-dire que j'ai réussi, et là c'est vraiment un exploit que j'ai fait, à ne jamais me faire virer d'une antenne alors que pourtant, je suis allé à mon micro en retard quasiment presque tous les jours.
Vous arrivez en retard pour la matinale ?
Ah oui, très souvent. Mais le problème, c'est que quand tu animes sur une locale, et j'embrasse tous les gens qui m'ont donné ma chance à La Réunion, j'embrasse Sébastien Follin qui m'a appris à faire de la radio, quand tu animes sur une locale, c'est toi qui as la clé de la radio. Tu dis bonjour à personne en arrivant. Tu vois, ça c'est vous, les nantis, les bourgeois. Tu comprends, les antennes nationales, les grandes radios périphériques qui arrivaient et disaient bonjour Nathalie, ça va? Bien dormi? Comment va le petit? C'est vous qui faites ça. Moi, j'arrivais et je devais lever la grille déjà, tu vois. Parfois même, j'étais à l'heure, mais le fusible de la grille qui avait pété. Je vous rappelle qu'on était dans une région parfois cyclonique et parfois la grille ne se levait pas. Je ne pouvais même pas dire aux gens à l'antenne qu'on était en alerte rouge.
Nous avons connu tous les deux une même jeunesse, loin des applis de rencontre et d'internet. Une jeunesse que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Une jeunesse qui restera dans l'histoire comme celle dite des pages lingerie de la Redoute. Et je peux vous dire que comme Manu, j'ai grandi dans une famille sévère qui n'aimait pas que je m'isole trop longtemps avec la Redoute ou les Trois Suisses.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Toute une époque. Vous avez connu ça aussi, hein, Manu?
Ah bah j'en parle dans le spectacle, bien sûr que j'ai connu. C'est-à-dire que dans celui du printemps, il n'y avait pas les jouets.
Donc elle grillait tout de suite.
Il y avait quand même les pages lingerie. Et non, et ma mère ne comprenait toujours pas pourquoi on était content de le recevoir. Elle dit c'est pas la peine de sauter au plafond comme deux idiots. C'est celui du printemps, il y a pas les jouets. Je crois que vous êtes excités comme ça, les deux. Et mon frère, il allait d'abord aux toilettes faire du repérage, d'abord pour son grand frère. Et puis après, il ressortait avec le catalogue, avec son doigt dans sa page préférée. Il me le tendait. Page 330.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
Face à vous, Manu, un autre spécimen de ces années de la préhistoire numérique, Eva Rock, contre qui vous allez maintenant jouer. Voici qui veut gagner une friteuse Laurent Mariotte. Il y a des très très beaux cadeaux cette année qui sont mis en jeu sur Europe1.fr. Alors Manu, vous connaissez ce genre d'émission, des quiz, vous en avez connu beaucoup, mais je me permets d'attirer votre attention sur le fait que celui-ci est peut-être encore plus con que tous ceux que vous avez déjà connus.
Génial.
Il s'agit d'un quiz musical. Vous jouez de la guitare, vous chantez, vous vous appelez Payet. Du coup, on a fait un quiz, yé ou Payé. Le principe est simple.
Si je dis que mon nom se prononce Payet, on est baisé. On peut
pas faire, Je m'en doutais. Je vous donne un titre de musique, vous me dites yé ou payé si vous pensez que dans les paroles il y a yé ou il y a payé.
Ah ouais, d'accord.
Par exemple, si je vous dis yé de Usher, il fallait dire
yé.
Yé, vous avez compris le principe.
Évidemment.
Manu Payet, si je vous dis le titre Viens danser le twist de Johnny Hallyday, vous me dites yé ou payé.
Bah, je vais dire yé.
On écoute en musique. Et c'est la bonne réponse. Il est trop fort. Ah oui, ah oui, il le dit bien. Il est très beau, net et sans bavure. Eva Rock, si je vous dis ABC du groupe Jackson 5, vous me dites yé ou payé?
Je dirais non, payé.
Vous dites payé? Vous dites payé?
Ouais.
D'accord, alors on écoute la réponse en musique.
Il y a un petit yé.
Bonne réponse.
Ah non, il n'y
a pas de yé.
Non, pas de yé.
Sachez-le, on a écouté le titre en entier pour vérifier qu'il n'y avait pas de yé ailleurs dans la chanson, évidemment.
D'accord.
Évidemment. Manu Payet, si je vous dis le titre Rehab de Amy Winehouse, vous me dites yé ou pas yé?
Alors, Rehab, and I say
no.
Donc je vais dire yé. Je vais dire non. Je vais dire payé.
Payé. On écoute la réponse. Elle a dit yé. On l'appelle Amy, qu'est-ce que c'est?
Merde, il y avait un yé là.
Il n'y a plus une seule chanson sans yé dans la musique américaine.
Ouais, c'est vrai, c'est dingue.
Et anglaise. Eva Rock, si je vous dis Lessons in Love du groupe Level 42, vous me dites yé ou pas yé?
Elle ne me revient pas du tout, la chanson.
Moi non plus, c'est une question.
Bah, je vais dire,
vous dites au hasard finalement.
Je vais dire pas yé, comme ça on entend encore le nom de Manu.
Ah, très bien.
Oh, comme tu chantes. Ça fait un truc rajouté, c'est genre Pascal, tu te dis encore, t'as pas pu t'empêcher de nous le faire, hein, c'est dingue, hein. On te dit pas hier et tu nous as placé son hier. Putain, et j'avais pas écouté le mix, et ben voilà, on s'est fait baiser. Ben, il est sorti.
C'est sorti il y a 33 ans et on l'a tous oublié. Manu Payet, si je vous dis Jaja de Aya Nakamura, vous me dites yé ou pas yé?
Ah, déjà, je dis Jaja.
Non, t'es déjà bien.
Déjà, tu vois, je me mouille pas trop et je voudrais un point parce que je dis déjà. Il y en a. Alors, je vais dire yé. Yeah. Je vais dire yé. Yeah.
Vous dites yé?
Ouais.
Réponse. Pourrait t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs.
y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça.
Il n'y a pas de yé, non, il n'y en a pas.
Pas de yé, donc il n'y a pas de yé. Mauvaise réponse de
Anicette,
Manu.
Ta chronique est en train de perdre des miles.
Non,
moi je te le dis,
parce
non, parce qu'il va
non, en malien, ça veut dire yé.
C'est vrai?
Qu'est-ce qu'il veut dire yé?
Alors, je ne parle pas malien, mais heureusement, ouais.
mais c'est un peu confus comme ouais. explication.
Il y a un brouille, là.
Mais je vous jure, là-bas, au Mali, tout le monde dit djadja pour dire yé. J'ai des amis maliens.
On vous aura mal renseigné, Anissé. Et Varrock, si je vous dis, c'est la dernière question qui va vous départager. Je ne sais même pas combien de points vous êtes, on s'en fout, mais ça va vous départager. Si je vous dis Don't Stop Me Now de Queen, vous me dites yeah ou pas yeah? Moi je le sais.
Having a good time, having a good time.
Non, je dis pas yeah.
J'imagine le moment de solitude pour nos auditeurs qui entendent Eva Rock fredonner Queen. Vous dites
pas yeah.
Vous dites pas yeah.
Ouais.
On écoute. Il n'a pas pu s'empêcher, Freddy, de rajouter un petit yé au passage derrière Sky. Égalité parfaite entre nos deux concurrents. La friteuse, Lauren Marriott, sera divisée en deux. Elle ne servira plus à rien, mais en même temps, servait-elle déjà à quelque chose? Certainement pas.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Ils s'affrontent à coups de chronique chaque jour pour convaincre l'invité de Mathieu Noël. Ce sont les journalistes d'Europe 1, car l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition pour laquelle vous votez d'ailleurs en semaine hein, sur Europe 1. On va retrouver donc Mathieu Noël, Eva Rock et une compétitrice à présent face à l'invité Denis Brognard. Je le rappelle, il animera le mag de la Coupe du Monde de rugby sur TF1 dès le 20 septembre.
L'heure est venue d'entendre Anne Le Gall, notre spécialiste environnement et initiative positive. Anne, qui n'a que des amis dans la rédaction, faut dire qu'elle est hyper sympa et que ses enquêtes lui permettent souvent de donner des super conseils à ses collègues de bureau.
En leur donnant par exemple des graines de lin, oui. Eh bien, elle dégazait moins.
Oui, mais ne révélez pas tout, Ève Roger nous écoute peut-être.
Oh non, c'est moche.
Aujourd'hui, Anne, vous avez choisi de nous parler d'un chien qui fait sa rentrée dans un collège de Normandie.
Voilà, je vais vous faire voyager, Denis. Je vous emmène dans l'Orne. Je vous emmène à Argentan.
Mais vous me faites rêver.
Mais oui, c'est la Normandie.
Je vous en prie, Denis. Attention, et c'est très beau, Argentan.
Je vais vous parler de Pollen. Pollen est une jeune chienne dalmatienne de 5 mois. Elle a effectivement fait sa rentrée scolaire au collège François Truffaut d'Argentan. Cette chienne, en fait, vient rassurer, déstresser, dénouer les conflits au sein des groupes d'élèves. Il s'agit en fait du premier chien pédagogique de France.
Ah, mais je suis fasciné par cette initiative. Elle a un emploi du temps, cette chienne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée?
Alors, elle a un emploi du temps parce que tout ceci se fait en accord avec l'éducation nationale. Donc, il y a un vrai protocole. Donc, pas question de laisser Pollen batifoler dans la cour comme ça. Donc, Pollen a un planning. J'ai appelé la principale, Madame Renard, ce matin. Madame Renard m'a confirmé. Pollen a un emploi du temps. Elle passe la plupart de son temps à l'infirmerie.
Anne, je vous l'ai dit pour vos sujets, pour vos infos. La source, c'est important. Le Gorafi, par exemple, ce n'était pas une source fiable en fait, pour faire une chronique journalistique.
J'ai vérifié, j'ai appelé le rectorat, j'ai appelé quand même la principale. Et effectivement, Pollen a un emploi du temps. Son travail, en fait, consiste essentiellement à faire de la médiation sociale en infirmerie. Donc, elle accompagne l'infirmier qui est le maître officiel du chien. Et pendant les entretiens médicaux avec les élèves, sa présence permet de déstresser les enfants. C'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves depuis la rentrée, donc depuis 10 jours. Et c'est d'ailleurs avec l'infirmier et le médecin scolaire que ce chien... a fait son entrée dans l'établissement et les élèves, donc, quand ils viennent à l'infirmerie, sont rassurés. Par ailleurs, Pollen suit des cours de dressage et elle interviendra aussi dans les classes pour intervenir auprès des élèves et responsabiliser les enfants face à un animal, leur apprendre le respect, par exemple.
Mais est-ce qu'on est sûr que la présence de chien a un impact réel sur les élèves?
Alors, dans l'éducation nationale, c'est une première. L'expérience va durer un an, mais ça fait quand même plus de 60 ans qu'on utilise la médiation animale pour dénouer les conflits, pour déstresser. Les premières expériences ont été menées dans les années 50 par un psychiatre américain qui a travaillé avec un enfant autiste. Et donc, il a constaté effectivement que la présence d'un animal pouvait renforcer la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que en fait, l'animal ne nourrit pas d'attente idéalisée par rapport à l'humain. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Et c'est beaucoup plus simple. Il y a une communication non-verbale qui se fait très simplement. D'où la présence, effectivement, de plus en plus fréquente de chiens, de lapins, de cochons d'Inde dans les hôpitaux, les maisons de retraite, même en prison. Donc, dans l'éducation nationale, c'est une première. Et la principale adjointe signale que d'autres établissements se sont déjà montrés intéressés par cette expérience à Argentan, dans l'Orne.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Et oui, il nous donne rendez-vous chaque jour de 16h à 18h. Mathieu Noël, entouré de sa complice Eva Rock, de journalistes aussi prêts à batailler pour séduire un invité. Il y a quand même un titre en jeu, hein, celui de chroniqueur du jour. Et il était parmi nous cette semaine, c'est Denis Brognard.
Alors Denis Brognard, c'est évidemment le sport sur TF1, c'est évidemment Koh-Lanta, mais pour les jeunes addicts des réseaux sociaux, c'est surtout un mot. Vous voyez ce que je veux dire, Denis ?
Ah !
C'est devenu ce qu'on appelle un mème, ouais. Ce A. Du coup, vous faites gaffe à ne plus jamais dire A.
Non, au contraire. Ah. Au contraire, même dans les voix off de Koh-Lanta, de temps en temps, je fais A. Ah. Les rouges sont désespérés. Et j'essaye de le cultiver. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand ça a commencé avec ce clip qui m'avait été envoyé par un internaute, j'avais trouvé ça très drôle, mais je vous promets qu'il y a certaines phrases. Par exemple, j'ai une phrase sur les plateaux où je dis de temps en temps, je me tourne vers vous. Et parfois, je me tourne même pas. Et ma réalisatrice me dit souvent, Denis, arrête de dire je me tourne ou au moins tourne-toi dans ces cas-là. Mais je vous jure que personne avant cet internaute ne m'avait parlé de ce fameux A qui est un A interrogatif, genre oui. J'y crois pas du tout.
Exactement. Alors Denis Brognard, vous dites souvent que l'image de Koh-Lanta colle à la peau. Est-ce que c'est si vrai que ça ? On est allé vous demander à vous dans la rue ce que vous pensiez de Denis Brognard. Loin de nous l'idée de faire un vulgaire micro-trottoir à d'autres, hein, toujours monté pour mettre en valeur l'invité. Non, nous c'est un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir mais sans montage. On a tout laissé.
Sur TF1, il me semble, non, c'est ça ?
C'est de l'économie, Denis Brognard. Ça me dit quelque chose, vu que je suis en prépa économie. Enfin, ma prof, elle nous en a déjà.
Quoi, Denis Brognard, c'est le mec de Koh-Lanta.
Ah ouais ?
Le flambeau, là.
Les employés de Koh-Lanta ont décidé de vous éliminer et la sentence est irrévocable.
Je connais ses répliques, mais elle sait pas c'est qui.
Oh, un beau gosse. Très beau gosse, très grand, très mince.
Bel homme ? Sportif et bel homme, oui.
C'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on ne doit pas regarder. Tant qu'on a des yeux, il faut regarder et apprécier.
Bon, bah, il présentait les voitures, les grands prix de Formule 1. Avant, il fait un truc aussi sur la télé, là, les ninjas, quoi, quelque chose, là. Une chemise que, comme il faut à Koh-Lanta.
Ah, Denis Brognard, ouais, je l'adore aussi. Beau, grand, maigre.
Koh-Lanta, animateur.
Oh, mais humoriste.
Non, non, c'est pas humoriste, c'est très bien, très bien. Je l'aime beaucoup.
Denis Brognard.
Ça me fait marrer parce que de temps en temps à la maison mes enfants m'appellent Thierry Brognard parce qu'un jour effectivement quelqu'un était venu me dire on peut faire une photo Thierry Brognard.
C'est vrai que c'est proche.
Donc, voilà.
Alors deux choses importantes quand même qu'on retient, que les gens retiennent, c'est que vous présentez Koh-Lanta et que vous êtes beau gosse.
Bah, ça, oui,
c'est,
ça va. Et que je suis mince.
C'est, et que vous êtes mince.
Tout est vrai.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Alors Denis, vous êtes certes très sympathique, mais il y a quelque chose d'extrêmement agaçant chez vous, c'est votre côté monsieur parfait. Il y a qu'à regarder votre Instagram, votre compte Instagram. Contrairement à moi, qui poste essentiellement des photos de côte de bœuf, de paupiètes de veau, sauce rocamadour.
Ah, je fais aussi, moi, la côte de bœuf.
Ou des baroques pionçant dans mon canapé après des paupiètes de veau rocamadour.
C'est vrai.
C'est quand même la vie idéale de l'homme parfait, sportif. Vous faites du sport tout le temps, vélo, course à pied. Vous êtes parfois avec Bichente Lizarazu, en toute décontraction.
Ouais.
Vous êtes un grand sportif dans la vie.
Ouais. J'aime ça et vous parlez de Bichente Lizarazu, c'est vrai qu'on a beaucoup roulé cet été, mais si je suis un grand sportif, lui c'est un dingue de sport.
Et vous arrivez à le suivre ?
Non, il est resté sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'il a le même rythme de vie que celui qui était le sien lorsqu'il jouait au Bayern de Munich. Donc c'est un fou, il se lève très tôt, il se couche tôt, il fait pas beaucoup d'excès, vous voyez, mais... En vélo, notamment dans l'école du Pays Basque, j'ai du mal à le suivre. Mais il m'attend haut.
Denis Brognard, vous êtes sportif, mais vous êtes un très très grand compétiteur. La vie, c'est une compétition pour vous.
C'est vrai que j'aime la compétition, surtout dans le sport. Je crois que c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'on se mesure d'abord à soi-même. Quand je cours un marathon, l'objectif, c'est pas de gagner parce que j'en suis tellement loin. Mais l'objectif, c'est de faire mieux que la fois précédente. C'est-à-dire que... C'est vrai que je peux pas imaginer, par exemple, faire le marathon du Médoc. Parce que le marathon du Médoc, c'est un truc qu'on fait... Non, mais courir 42 km sans avoir un objectif, c'est quelque chose que je peux pas vraiment concevoir. Maintenant, on essaye toujours de faire mieux que la fois d'avant, sachant qu'à 50 ans passés, être champion du monde, ce sera pas possible. Et puis, j'en ai jamais eu le potentiel ni le talent.
Quand je parle de compétition, c'est est-ce que vous arrivez à faire un match de tennis avec des potes sans vous énerver si vous perdez ?
C'est vrai que je suis un vrai compétiteur. Ça fait un moment que je n'ai pas joué au tennis avec ma rupture du tendon d'Achille, mais le tennis, c'est un sport qui me tape un peu sur le système de temps en temps.
Mais ça, c'est énorme.
Il n'y a rien de pire que de louper une volée facile ou que de faire une double faute. Donc, c'est vrai qu'au tennis, surtout quand l'adversaire en face est un pote, c'est un peu compliqué. Mais je ne suis pas mauvais joueur. Je suis mauvais joueur contre moi. Je peux m'insulter moi-même, mais je ne suis pas mauvais joueur avec l'adversaire.
On verra ça quand je vous prendrai au ping-pong l'été prochain à Ranatuel. Après 20 ans de Koh-Lanta, vous êtes devenu indissociable de cette émission. À tel point que lorsqu'ils vous voient présenter ou parler d'un sport, certains vous disent « Qu'est-ce que tu fous là ?»
Ben c'est vrai, il n'y a que Alain Hacaud finalement autour de cette table qui sait
qui
que j'ai commencé.
Vous êtes
ben voilà, je suis journaliste de sport. Et c'est vrai que dans la rue, le nombre de gens qui. Alors un peu moins maintenant, notamment depuis la victoire de l'équipe de France il y a 2 ans en Coupe du Monde. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent mais pour beaucoup, je suis né avec Koh-Lanta et pas avec ce que j'ai fait avant. J'ai commencé en 90 sur les réseaux de Radio France, puis je suis arrivé à Europe 1 où j'ai travaillé au service des sports longtemps. Ma passion première, mon ADN, c'est le sport et c'est vrai que c'est indissociable de toute ma vie professionnelle.
C'est-à-dire que quand vous étiez jeune, à l'école de journalisme, vous rêviez pas d'être animateur vedette, vous rêviez d'être Thierry Roland.
Exactement. Mon objectif, c'était de commenter du foot, de commenter du sport à la télévision pour aller sur le terrain. Finalement, c'est ce que je dis aux jeunes journalistes aujourd'hui. Quand on commence et qu'on est passionné par le sport, on paye pour aller dans un stade et pour voir des événements. Après, on est payé pour faire la même chose en commentant. Voilà, c'était ça mon objectif. Je rêvais de ça. J'y suis à moitié arrivé, mais ensuite j'ai
la modestie du micro d'or était patente.
J'ai changé de vie, mais j'ai commenté l'athlétisme longtemps, notamment ce sport qui me passionne.
Vous avez même été speaker au Stade de France pour une compétition d'athlétisme.
Exactement. Ouais. Ouais.
Le 1er août dernier, vous avez fêté vos 20 ans à TF1. Ouais. Quand on connaît la longévité habituelle des animateurs, à quel moment vous allez nous avouer que vous avez un collier d'immunité? Comment vous vivez cette longévité?
Je suis monté au 14e étage, là où il y a toute la direction, et dans un tiroir du bureau de Gilles Pélisson, j'ai trouvé un collier d'immunité, mais c'est la première fois que je le dis.
Ouais.
Voilà, le patron de TF1, et je l'ai mis autour de mon cou. Mais c'est vrai, et vous savez que quand on est à TF1 depuis 20 ans, on a une médaille et un petit cadeau. Donc voilà, j'attends ma médaille et mon cadeau. Je ne l'ai pas encore reçu, mais 20 ans. Mais c'est une maison qui est fidèle. Il y a plein de gens qui disent « Ah, TF1, ça doit être terrible. C'est une boîte où on ne fait pas de cadeaux. » Bah, je pense qu'à TF1, on a une longévité, notamment au niveau des animateurs, beaucoup plus grande que sur les autres chaînes.
Oui, mais ce n'est pas de la philanthropie, c'est surtout vos audiences sont toujours aussi bonnes, je crois. Eva, vous qui êtes un spécialiste média, Koh-Lanta, ça va être
Koh-Lanta, c'est un ovni dans le paysage télévisuel français, parce que depuis 2001, les audiences, on dépasse régulièrement les 25% de part d'audience, si je ne me trompe pas. Enfin, je dis ça de
bien
mémoire.
Sûr.
Vous êtes évidemment monté beaucoup plus haut, mais dans un paysage qui a été totalement remodelé, Koh-Lanta, c'est une franchise TF1 qui est considérable.
Et surtout, on est entre 35 et 40% sur la cible la plus importante, celle des femmes de moins de 50 ans.
Je sens qu'entre spécialistes médias, vous êtes chauds tous les deux là. Eva Roth, Denis Brognard, c'est une sacrée rencontre.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Et oui, de retour avec l'équipe Sauvage, notre nouveau rendez-vous de l'après-midi. Vous le savez maintenant, entre 16h et 18h sur Europe 1 avec Mathieu Noël, son acolyte Eva Roch, les journalistes d'Europe 1 prêts à en découdre, à coup de chronique. Je vous rappelle qu'il y a quand même un titre en jeu, chroniqueur du jour, du lundi au vendredi, dans une ambiance qui reste conviviale, bien entendu. Et durant cette prochaine heure, on va retrouver nos invités qui étaient présents cette semaine, entre autres. Il y avait Manu Payet, il y avait Jeanne Chéral, Éric-Emmanuel Schmitt, ça c'était la semaine précédente. Et puis, Cédric Lapiche, à l'occasion de son nouveau film « Deux mois ». Il était d'ailleurs face à Axel de Tarlé.
Un journaliste qui vit vraiment avec son temps, qui épouse tous les changements de nos sociétés, comme notamment les réseaux sociaux.
Twitter, Facebook, tous ces trucs-là.
Moi, j'y suis pas. J'en parle, mais...
Il en parle mais il n'y comprend rien. Axel de Tarlé, vous êtes notre expert économie. Vous avez d'ailleurs, je crois, des infos exclusives sur ce que prépare Raymond Barre pour la rentrée et également sur le troisième plan quinquennal de Brejnev. Mais d'abord, vous nous parlez aujourd'hui d'un livre que vous avez lu et qui vous a visiblement séduit. Vous qui prenez goût peu à peu aux idées de gauche. Le dernier... Oui, peu à peu, il fait une transition. Le dernier livre de l'économiste Thomas Piketty, déjà salué pour son Capital au XXIe siècle, qui dénonçait la hausse des inégalités. Là, c'est dans la même veine.
Bah oui, alors d'abord, on rappelle qui est Thomas Piketty quand même. Thomas Piketty, vous savez, c'est cet économiste français dont le précédent livre a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Donc il parlait des inégalités. Il a même été reçu à la Maison Blanche, alors pas par Barack Obama, mais par l'un de ses conseillers. Et donc là, alors, il parle à nouveau des inégalités. C'est son dada, Thomas Piketty. Mais alors là, il a fait toute une partie historique et c'est intéressant parce qu'il dit, quand on regarde dans l'histoire aujourd'hui, je sais pas, le Moyen-Âge, ça nous paraît très inégalitaire et très despotique, mais à l'époque, les gens, ils trouvaient que c'était normal et on accepte souvent les inégalités et ça n'est que quand on se projette, enfin quand on a un regard sur l'histoire, on dit mais c'était épouvantable. Et il dit cette notion de propriété, cette concentration de richesse par certaines grandes fortunes paraîtra, si ça se trouve, dans quelques années comme épouvantablement injuste et on se demandera pourquoi on les a acceptés au début du XXIe siècle. Et donc, alors, il dit quelque chose qui, c'est vrai, va choquer. Il dit qu'il faut dépasser la notion de propriété.
Ah oui, Proudhon, quoi.
Voilà, il dit qu'il faut y incorporer deux propriétés, la propriété sociale et temporaire. Alors, je commence, c'est quoi ? La propriété temporaire, ça veut dire que si à 30 ans, vous gagnez 100 milliards, bah, au fond, il faut tout de suite vous prendre énormément d'argent. Il n'y a pas de raison qu'à 32 ans, vous les ayez encore. Donc, il propose un impôt qui très, très progressif, qui commence à 0,1% et qui monte à 90% au-delà de 2 milliards. Il dit qu'il faut que l'argent tourne. Et ce n'est pas normal, il dit, il attaque les premiers de cordée, etc. Il dit que ce n'est pas normal que les gens très riches, qu'on pense que les gens très riches soient nécessaires au bien-être de la société. Et deuxième notion, il dit la propriété sociale. Il dit, dans les grandes entreprises, on ne voit pas pourquoi ce serait le patron qui serait tout puissant et les salariés qui devraient exécuter. Et donc, il dit, les salariés qui participent aussi à l'enrichissement du pays devraient avoir la moitié des droits de vote. Alors, on se dit, bon, tout ça, ce sont des idées de Piketty qui ne seront jamais appliquées. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez le programme de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, que dit-il ? Il dit, toutes les entreprises doivent donner 10% de leur capital, de leurs actions, à leurs salariés, puisqu'il faut que les salariés participent, enfin bénéficient de l'enrichissement de l'entreprise. Alors déjà, vous savez que ce programme de Jeremy Corbyn fait grincer des dents, parce qu'on commence à parler d'expropriation. Mais là où j'en veux la preuve que ces idées progressent, c'est que j'ai entendu l'autre jour Alain Minc, qui quand même épouse les idées de son temps, à l'université d'été du MEDEF, il a dit « Face à la montée des inégalités, messieurs les patrons, vous n'avez d'autre choix que de distribuer des actions gratuites, mais attention, vous ne les distribuez pas aux grands managers, vous les distribuez à tout le monde. Et vous devez ainsi distribuer en actions gratuites jusqu'à 10% du capital des entreprises à tous les salariés. » Et vous voyez, quand vous pensez, vous ajoutez à cela aussi les États-Unis, les démocrates qui veulent introduire l'ISF, on voit bien que ces idées et que cette concentration de la richesse sur quelques grandes fortunes, qui à l'heure des réseaux sociaux, j'entendais le patron de Danone dire ça également, il disait à l'heure des réseaux sociaux, en plus ces inégalités, elles nous explosent à la figure sur notre téléphone portable. Mmh. Et donc elles sont de moins en moins acceptées socialement. Et on voit les politiques en Grande-Bretagne, Alain Minc en France, les démocrates aux États-Unis, s'emparer de ce sujet et y apporter une réponse politique. Bah, en ce sens, je vous ai résumé 1232 pages, mais j'ai trouvé.
Je sens une certaine fierté chez vous. Hein.
Mais non, mais je me suis dit, c'est vrai que c'est pas un bouquin qui est intellectuel et dans les airs. On sent que ces idées transpirent dans la politique. Voilà.
Eh bien, je dis bravo, Axel. Vous devenez de plus en plus mégalo. Plus vous devenez de gauche, plus vous devenez mégalo. C'est étonnant. C'est un parcours intellectuel intéressant.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Allez, on retrouve Mathieu Noël, Eva Roch et un journaliste en compétition également. C'est Mathieu Charrier, notre monsieur cinéma. Il est face d'ailleurs au réalisateur, Cédric Lapiche.
Voici venir Mathieu Charrier, qui Cédric n'est pas n'importe qui, puisqu'il est, il est vice-chef adjoint délégué par intérim du service culture d'Europe 1. Avec quel sujet allez-vous tenter de vous hisser au sommet du podium ?
Est-ce que vous voyez que déjà qui est Avzia Arzi, vous savez, oui, révélé notamment dans La Graine et le Mulet, voilà, ouais, chez Kechiche, c'est une jeune actrice assez formidable. Et l'année dernière, elle attendait la réponse, parce qu'elle voulait réaliser son premier film. Il y a plein d'acteurs qui, au bout d'un moment, veulent passer derrière la caméra. Elle attendait la réponse du monde financier, ça venait pas. Et puis à un moment, elle s'est dit, passez-moi l'expression, et merde, tiens, je vais faire mon film toute seule. Elle a regardé sur son compte en banque, il restait à peu près 1000 euros, comme nous tous. Elle s'est dit, bon, allez, avec 1000 euros, je vais essayer d'autoproduire mon film. Elle a appelé des copains techniciens, des acteurs amateurs qu'on ne veut pas tourner dans beaucoup de films, donc qui n'allaient pas lui demander beaucoup d'argent. Ils ont accepté et bim, c'est parti, ils ont commencé le tournage.
Mais comment ils ont financé, ne serait-ce que les caméras, les décors ?
Alors, c'est assez simple, les décors déjà, c'est chez eux, à Belleville. Hein. Ils sont restés dans le même quartier pour ne pas gagner du temps et pas avoir à déplacer toute cette petite équipe. Ils ont tourné dans les bars et les restos qu'ils fréquentent avec les patrons qui leur ont dit « Ouais, vas-y, pas de souci, je te prête le bar une nuit ». Niveau caméra, ils expliquent qu'ils ont pris des petits appareils photo qu'ils avaient chez les uns et chez les autres parce qu'ils n'avaient évidemment pas les moyens de louer les caméras cinéma qu'on a aujourd'hui. Et puis, ils ont tourné en 3 fois 5 jours parce qu'ils disaient qu'il faut quand même que les gens puissent manger. Donc, ils tournaient 5 jours et puis les 25 jours restants, ils pouvaient aller travailler sur d'autres tournages parce que évidemment ces techniciens-là n'étaient pas payés. Puis petit à petit, le film a pris vie. Elle s'est dit courant mars, tiens, si je le présentais à Cannes, parce qu'après tout, pourquoi pas essayer. Elle a envoyé le film aux différents comités de sélection. Bim, la semaine de la critique l'a rappelé, lui a dit, allez banco, on te prend. Et donc là, début mars, hop, sélectionné au Festival de Cannes. Le film arrive à Cannes, coup de projecteur évidemment formidable. Elle est partie avec 1000 euros. Elle obtient l'achat d'une chaîne de télévision qui lui dit « Nous, on met de l'argent sur votre film, c'est Arte. Mmh. » Elle obtient plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est quand même... Là, on passe sur un budget beaucoup plus conséquent. Donc elle peut rappeler tous ses potes techniciens, tous les acteurs en leur disant « Bon les gars, c'est bon, je vais pouvoir vous donner un petit peu d'argent. » Et puis le film, alors il n'a pas été récompensé à Cannes, mais ça lui a évidemment permis de trouver un distributeur, etc. Et franchement, c'est un film. Ouais, c'est réussi. Alors, c'est un film d'auteur avec des petits moyens. Vous n'allez pas avoir des éclairages parfaits. Mais c'est un beau film qui raconte une belle histoire.
Et justement, il raconte quoi ce film ?
Alors, c'est l'histoire du personnage de Lila, jeune trentenaire joué par Avzi Herzi, puisque quand on n'a pas de moyens, on se met aussi devant la caméra, qui vient de larguer son mec. Rémi, c'est une histoire d'amour vraiment traditionnelle, qui vient de le larguer parce qu'elle a découvert qu'il le trompait. Et elle va essayer de se reconstruire à travers différentes rencontres et surtout à travers différents désirs. C'est-à-dire qu'elle va décider d'écouter son désir de femme. C'est un film sur le désir féminin. C'est évidemment très dans l'air du temps. Mais franchement, c'est un joli film que je conseille à nos auditeurs.
Est-ce qu'il y a du Girls dedans, de Lena Dunham, la série ?
Non.
Ah non, il n'y a pas ça. Non. C'est pas cet esprit-là.
Non, c'est plus l'esprit vraiment, moi, femme, d'accord, je m'affirme, je séduis, je couche si j'ai envie de coucher, je couche pas si j'ai pas envie. Ça prouve mais quand même qu'aujourd'hui, on peut. Il y a évidemment des gros films comme celui de Cédric Lapiche qui ont besoin de budget,
mais
etc.
Attendez. Mais surtout que Cédric Lapiche est une star aujourd'hui, mais j'imagine que vous avez commencé à vos débuts, vous avez dû faire des films à petit
absolument
budget.
Absolument. Bah oui, Le Péril Jeune, c'était un très petit budget où chacun cherche son chat aussi. Ouais.
Et oui, et donc du coup, ça, j'imagine, ça stimule la créativité. On est obligé de.
Ouais, mais pensez pas qu'avec plus d'argent, on enlève la créativité.
Non, certainement pas, mais disons que.
Non, parce qu'en plus, c'est plutôt un petit budget de moi, et donc, donc évidemment pas dans les mêmes échelles qu'Avzi Herzi, mais en tout cas, oui, c'est un petit budget.
Mathieu Charrier, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Pas des fois d'avoir moins de budget, parce que j'imagine que c'est aussi moins de pression, c'est moins de. Quand on part avec 1000 euros, on fait son petit film, et on se dit, bon, si c'est raté, j'ai perdu 1000 euros, c'est pas le bout du monde, quoi.
Ouais, mais c'est un peu ce que je me dis aussi. Alors, c'est vrai que moi j'ai alterné, disons. Faut savoir que dans le cinéma, un petit budget, c'est 1 million d'euros. Que quand on est à 5 millions d'euros, on est dans la moyenne des films français. Et puis à plus de 10 millions d'euros, on commence à être dans les films un peu exceptionnels. Et puis il y a pas mal de films qui font plus de 20 millions d'euros, qui sont les films en costume très chers et tout ça. Et moi, j'ai un peu alterné entre 5 et 10 millions d'euros. Donc il y a eu des films très chers, comme Casse-tête chinois qui était très cher. Mais c'est vrai que maintenant, je me rapproche plus de la barre des 5 millions d'euros.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage. 16h-18h sur Europe 1,
L'Équipée Sauvage.
Et la suite de L'Équipée Sauvage, c'est toujours avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, les journalistes compétiteurs, parmi lesquels d'ailleurs un amoureux des livres, Nicolas Caro, et un invité, il y en a toujours un, en l'occurrence le romancier à succès Éric-Emmanuel Schmitt, venu nous parler de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à Paris.
Alors c'est vrai que les chiffres sont affolants, vous êtes joué Éric-Emmanuel dans pas moins de 50 pays, vous êtes traduit en 46 langues, même si personnellement j'ai trouvé tout de même en Chine que Oscar et la Dame Rose perdaient un peu à la traduction. C'est vrai que quand même c'est un succès fou. Comment on garde la tête froide et surtout comment on peut réussir à se remettre en cause quand le succès est là tout le temps, à tous les coups? Est-ce qu'il vous arrive d'écrire un début de roman et de vous dire non, ça fonctionne pas en fait?
Mais tout le temps.
Ah, tout le temps. Vous êtes Éric-Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire que moi je serai Éric-Emmanuel Schmitt, j'écris puis je donne à mon éditeur. Je vends.
Je suis peut-être la seule personne pas convaincue d'être Éric-Emmanuel Schmitt.
C'est ça votre force.
Parce que moi je vis au présent. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire. Je suis quasi amnésique, quoi, en fait. Et c'est le présent qui me passionne. Mais c'est vrai que vous me faites rire parce qu'à un moment, une fois, mon éditeur m'a dit, je disais, j'hésite entre écrire tel livre. Écrivez parce qu'en tous. Fait, moi j'ai un jardin où il y a des livres comme ça et je vais prendre les fruits, quoi. Et il croyait que j'avais un problème d'écriture alors que c'était juste un problème de surplus d'écriture. Et il m'a dit, mais si vous voulez, vous savez, votre nom c'est une marque et alors on peut vous trouver quelqu'un à qui vous donnerait des... On m'a proposé un nègre.
Mais non.
Oui. Et alors j'étais entre la fierté et la colère absolue. Parce que la fierté du genre, bon, finalement je dois représenter quelque chose, ce dont je m'étais pas rendu compte. Et en même temps la colère en disant, bon, enfin, personne n'écrit de Pécrire du Schmitt comme Schmitt. Voilà, donc voilà. Non, moi je vis au présent.
Alors, évidemment, Éric-Emmanuel Schmitt, on est en France, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous vivez en Belgique. Et en France, le succès, on trouve ça toujours un peu suspect. Vous avez cette formule assez drôle, vous dites « Je comprends qu'être dans les listes de best-sellers peut créer une méfiance systématique de la critique, mais comme tout ce qui est systématique, c'est sot, je l'ai vécu, à 4000 exemplaires, j'étais un génie, à 40 000, j'avais du talent, et à 400 000, j'étais une merde. » Je trouve que c'est formidablement résumé, ce problème du succès en France.
Mais oui, bien sûr, parce qu'au bout d'un temps, les gens ne lisent plus... certains critiques ou certains journalistes prennent le livre en disant « Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci pour avoir du succès ?» Alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui crée. Et puis oui, ça crée des malentendus. Enfin, ça va, c'est des problèmes de réussite, hein, c'est pas des problèmes d'échec, donc on peut endurer ce genre de choses.
Nicolas Caro.
Tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on n'a pas aussi, à l'inverse, tendance à évaluer maintenant le talent par le nombre de ventes ? C'est-à-dire que dès que quelqu'un a beaucoup de ventes, on dit « bah voyez, il est apprécié, c'est qu'il a du talent », alors que pas forcément.
Il y a les deux. Les deux sont aussi bêtes, quoi. Attribuer le génie à la non-reconnaissance et puis faire l'inverse. Ouais. Non, mais tout ce qui est systématique, c'est ce que je disais dans l'article du Monde, tout ce qui est systématique est sot, quoi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Éric Emmanuel, je vous présente Eva Rock, ancienne rédactrice en chef à Télé 7 jours. Autant vous dire qu'intellectuellement, il va falloir vous accrocher pour la battre dans notre célèbre quiz. Qui veut gagner une yaourtière Philippe Vandel? Et oui, c'est un beau cadeau.
Je l'offre à Éric Emmanuel Schmitt tout de suite.
9h11 sur Europe 1, tous les matins. Nous allons mesurer vos connaissances littéraires réciproques. C'est drôle. Avec une épreuve aussi simple que redoutable, je vais vous donner des titres de livres. Vous me dites s'ils existent ou s'ils sont complètement inventés. Vous répondez chacun votre tour. C'est parti. Eva Rock. Si je vous dis le mec de la tombe d'à côté.
Ah bah oui, vrai, je l'ai lu en plus.
Oh ! Alors vous me ferez des quiz plus difficiles pour Eva Rock, qui finalement lit des bouquins en fait. Il est signé Katharina Mazzetti, suédoise. Le livre est sorti en 2006. Bien joué Eva. Éric Emmanuel Schmitt, si je vous dis encore une nuit de merde dans cette ville pourrie. Vrai ou faux livre ?
Vrai livre ?
Vrai livre.
Nick Flynn.
Nick Flynn, un poète américain sorti chez Gallimard en 2002. Vous l'avez lu ? Non. Vous n'avez pas envie, visiblement. Eva Rock, comment utiliser les autres 90% de votre cerveau pour augmenter la taille de vos seins?
Non, c'est faux, et arrêtez de me poser des questions comme ça.
Vrai livre.
Non.
Eh oui, sorti en 1979, écrit par Donald Wilson. Le titre entier, c'est « L'augmentation mammaire grâce à la totale puissance de votre esprit. Comment utiliser les autres 90% de votre cerveau pour augmenter la taille de vos seins ?»
Je ne comprends pas pourquoi vous avez posé cette question à moi et pas à Éric Emmanuel.
Je vous l'ai commandé, Eva.
D'accord.
On ne sait jamais. Éric Emmanuel, « Le froid modifie la trajectoire des poissons. » Vrai livre ou faux livre ?
C'est un bon titre. Non.
Non, vrai livre.
Ah oui, c'est vrai.
Auteur canadien Pierre Zalowski a sorti ce livre en 2007. Dans ce livre, on trouve cette citation. Écoutez bien, Eva. L'amour, c'est comme un taxi. S'il ne s'arrête pas et qu'on lui court après, c'est qu'il est déjà pris. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je suis content de ne pas l'avoir lu.
Eva Rock, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau.
Oui, c'est vrai.
Mais oui, mais ça, c'est trop facile, ça. Oui. Tout le monde l'a lu. Oliver Sacks, ouais. Neurologue anglais. Dans ce livre, il raconte les affections les plus bizarres qu'il a rencontrées chez ses patients. Il raconte notamment le cas de cet étudiant de médecine de 22 ans qui, après une nuit d'abus de cocaïne, son odorat s'est amplifié de façon dramatique. Plusieurs années après la sortie du livre, l'auteur a avoué qu'il parlait de lui, tout simplement. Éric Emmanuel Schmitt, si je vous dis Siloc, Superloc, Soliloc et Interloc de Pataphysique. Vrai ou faux livre ?
Si c'est un pataphysicien, il est capable d'avoir écrit un livre comme ça. C'est horrible parce que quand on ne connaît pas, on a tendance à dire que ça n'existe pas, ce qui est une preuve de connerie totale.
Et donc vous répondez ?
Ça n'existe pas.
Non, ça existe ! Il est signé Alfred Jarry, sorti en 1906. Ce livre se veut un manuel de pataphysique.
Ah là, j'ai honte.
À savoir la science des exceptions.
Ah oui, moi je ne pensais pas que le
théâtre. Ça tombe en plus, ouais. Le théâtre. Ouais.
Et Varrock, enfin, Oui et Monsieur Grominou. Vrai livre ou faux livre ?
Ah ben non, ça doit être faux ça, parce que Grominou.
Eh bien non, toutes les réponses étaient vraies.
Ah bon ?
96 pages sorties en 2000. Auteur Enid Blyton, romancière britannique à qui on doit oui, mais aussi le Club des 5 et le Clan des 7.
Qu'est-ce que j'ai détesté cet auteur.
On l'embrasse. C'est Eva qui remporte la yaourtière. Philippe Vandel.
Je suis tellement contente.
Et ça, je pense que ça va changer votre vie.
Ça va changer ma vie.
Compact, chromé, la yaourtière Philippe Vandel est à vous.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et jusqu'à 18h, vous écoutez Mathieu Noël, entouré d'Eva Rock, sa complice, des journalistes d'Europe 1 et d'un invité, parmi lesquels Jeanne Ferral, invité à nous parler de son nouvel album L'An 40. L'équipe est sauvage, donc c'est de l'info, du divertissement et c'est aussi de la culture.
Dans quelques jours, la Fashion Week débute à Paris, une série de défilés au cours duquel la presse internationale va célébrer la femme française, chic, élégante, parfaitement maquillée, bref, la parisienne. Une journaliste de mode franco-britannique sort du lot et s'écrit « Non, je ne suis pas parisienne ». Elle en a fait un livre publié chez Soc. Bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour.
Vous écrivez que la parisienne est un animal légendaire, une licorne. Mais pourquoi moi j'en croise tous les jours des parisiennes dans la rue ?
Alors est-ce qu'elle ressemble à celle que vous avez vue dans les publicités d'Eurostar ?
Ah, jamais.
Jamais.
Jamais, effectivement.
Il y a quand même un espace énorme entre celle qu'on voit tous les jours dans la rue et puis celle qu'on vend au restant du monde. Donc c'est toujours des femmes qu'on voit qui sont kilométriques, qui prennent pas un gramme, qui ont des enfants qui sont parfaitement sages, qui ne grossit pas, qui ne vieillit pas, qui n'a pas besoin de dormir. Donc non, c'est celle qu'on nous montre, je la cherche encore.
Alors la genèse de ce livre, c'est une expérience personnelle qui est assez drôle. Début des années 2000, après une adolescence faite de liberté, de gras décomplexé, de pintes de bière de l'autre côté de la Manche, vous fêtez votre retour à Paris dans une brasserie à la gare du Nord et le serveur ose vous dire, vous n'allez pas reprendre des frites quand même ?
Si, si, en se tapotant sur les hanches pour me montrer où les frites allaient finir.
Oui. Quelle finesse.
Tout
c'est
à fait.
La classe à la française aussi.
C'est une proximité qu'on n'a que en France, effectivement.
Qu'est-ce qui vous gêne dans ce mythe de la parisienne, du coup ?
Mais c'est qu'il n'existe pas. Enfin, le mythe existe, mais cette femme n'existe pas.
Inutilement.
Je pense qu'il y a une image d'une femme qu'on nous montre partout. Il y a même des cours à la Sorbonne qui nous apprennent à être mieux parisienne. Il y a des tutoriels, entre grosses guillemets, sur Internet. Il y a des livres, des manuels, des collections de vêtements qui nous promettent de nous rendre parisienne. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai été à l'école à Paris jusqu'à mes 15 ans, avant que je parte en Angleterre, et je la cherche toujours. Alors, je me suis toujours dit, si même moi, en tant qu'à peu près parisienne, je ne m'y retrouve pas, que je ne sais pas qui s'y retrouve.
Ce qui est à Paris, surtout, c'est le regard de l'autre. Et on se dit toujours comment je m'habille, est-ce que ça va, est-ce que ça passe. Même maintenant pour les hommes un peu, mais surtout pour les femmes. C'est vrai que moi qui ai vécu à Londres aussi comme vous, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire dans la société anglo-saxonne, enfin surtout à Londres, on s'habille vraiment.
Pas du tout.
On croise des gens qui s'habillent, mais de manière complètement
excentrique ouais.
Et personne ne va s'arrêter sur eux dans la rue et les juger.
Il n'y a pas du tout cette proximité. Je pense que vu qu'on est un pays plus latin, on se permet une proximité qui n'y aurait pas du tout en Angleterre. Donc c'était, pour moi, c'était quelque chose qui était très brutal quand je suis revenue. Et j'ai appris à m'assagir au fil des années, mais j'ai pas vraiment eu le choix en fait.
Vous attaquez aussi à la grossophobie parisienne et le fait que dans la mode française, beaucoup de tailles s'arrêtent au 42. C'est typiquement français ça ? On ne retrouve pas ça ailleurs ?
Déjà les tailles, ce qu'on appelle le 36 en France, c'est de l'extra small dans tous les autres pays. Non, c'est sûr qu'il y a un régime caché, mais qui est pas avoué. Mais il y a des livres entiers qui sont sortis qui s'appellent Why French Women Don't Get Fat, par exemple. Alors, je ne sais pas si on a des gènes particulièrement différents.
Pourquoi les femmes françaises ne deviennent jamais grosses ?
D'où vient cette femme miraculeuse ? Ouais. Je connais toujours pas une femme qui est complètement exemptée des calories et du temps qui passe, etc. Non, je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Ça fait plus de mal parce que la plupart des femmes se disent « Ouh là là, moi je ne vais jamais rentrer dedans bah, », comme votre chanson d'ailleurs. C'est-à-dire, on a l'impression d'être une fausse, même quand on y vit, même quand on y a grandi.
Eva Roche, je sens que vous avez un témoignage à apporter.
Non, pas du tout. Ce que j'ai demandé à Jeanne Chiral, elle ressemble à quoi, votre parisienne, Jeanne ?
Celle de la chanson ?
Oui.
Celle de la chanson, c'est clairement moi. Je
me retrouve vraiment dans ce que vous dites, dans le fait de jamais se sentir tout à fait. Mais au bout d'un moment, il faut le revendiquer, ça aussi, je pense. Ça, au bout d'un moment, il faut en faire une force, le fait de se dire, on parlait il y a très peu de temps des diktats qu'on nous impose dans la presse féminine, dans la société en général. Et il faut sûrement redéfinir ce que c'est d'être parisienne. Et il y a autant de façons que d'individus, quoi. Je pense que votre livre, il va sûrement dans cette direction-là.
Oui, tout à fait.
J'ai l'impression.
Et puis aussi de se dire, on a le droit de revendiquer de ne pas être Paris du tout et d'en être très content.
Exactement.
Et où sont les Marseillaises, où sont les Rénoises, où sont les Malakoffiottes ?
D'ailleurs, les Malakoffiottes.
Je suis Malakoffiotte d'ailleurs, tout à fait.
Et les hommes dans tout ça ? Est-ce qu'on est jugé aussi en permanence comme ça ? Est-ce que l'homme parisien...
Alors il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'en Angleterre, mes copines me demandaient toujours la même phrase, is he French or is he gay ?
Est-il français ou est-il gay ?
Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme français, ou non, l'homme parisien, a beaucoup moins peur de faire, entre guillemets, gay, oui, que de faire, également, entre guillemets, beauf. Donc il y a une plus grande hantise de classe qu'une hantise sexuelle.
Je vous confirme.
Et tout ça raconte un mépris de classe qui est quand même terrible.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc ce serait une sophistication...
C'est ce qu'on appelle, on avait un terme pour ça, les métrosexuels.
Ouais. Métrosexuels, c'est ça. Donc ce serait une sophistication qui montrerait combien on est intellectuel et merveilleux et combien on descend de Louis XIV, j'imagine. mais ce qui met mal tous les autres hommes qui n'ont pas forcément envie de s'en bijouter.
Merci beaucoup Alice Pfeiffer.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Oui, l'équipe est sauvage, c'est tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h en semaine, mais aussi le week-end puisqu'on se remet dans l'ambiance. On va retrouver le réalisateur Cédric Lapiche. Son nouveau film a pour titre « Deux mois » et il évoque l'histoire de deux trentenaires écrasés par la solitude mais qui tentent de changer la donne avec François Civil et Anna Girardeau pour les deux acteurs principaux.
Un mot du tandem d'acteurs François Civil et Anna Girardeau qu'on avait déjà vu dans votre précédent film, ce qui nous lie. Vous avez vraiment trouvé votre nouveau couple fétiche.
J'adore ces acteurs, c'est vrai. Et je suis bien content qu'ils fassent cet effet-là, et François Civil et Anna Girardeau, parce qu'ils ont un mélange entre... ils ont une palette de jeux où ils sont entre la comédie, le drame, ils peuvent faire pleurer, ils peuvent faire rire, et je les admire beaucoup. Ouais.
Anna Girardeau racontait dans le journal du dimanche qu'elle avait vécu une rupture amoureuse juste avant le film, ouais, et vous lui auriez dit « ça c'est très très bien ça
ouais. !» Bah oui, parce que ce qu'elle joue dans le film...
Vous êtes un tyran en fait.
Donc, mais c'était pour rire, d'ailleurs je m'excuse auprès de son ex, hein, parce qu'il n'y a évidemment pas de choses négatives, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'elle avait à jouer, c'était super.
Et alors vraiment, il y a ce portrait de notre époque, il y a cette scène, je pense qu'Eva, vous l'avez noté vous aussi, où Anna Girardeau, qui joue donc Mélanie dans le film, s'inscrit sur une application de rencontre, et en même temps, c'est copine commande à bouffer sur une application comme Deliveroo probablement. Et donc faire les deux, commander une pizza comme on commande un homme, c'est vraiment la photo de notre époque. Quoi.
Oui, puis surtout on le remarque presque pas, c'est-à-dire que
c'est quand on le voit dans le film qu'on se dit ah oui, mince, on le fait aussi.
C'est le même geste en tout cas. Donc voilà, et on fait défiler les restos japonais ou italiens et les hommes japonais ou italiens.
Et vous, Tinder et Deliveroo en même temps, vous en pensez quoi? Vous vivez avec votre temps ou bien vous vous sentez en décalage? On est allé dans la rue vous poser la question. Enfin, pas moi, parce que je suis chef, j'ai envoyé quelqu'un, quoi.
Franchement, se galérer sur Tinder, si vous êtes célibataire, allez dans un bar, parlez aux gens.
Il y a encore 20 ans, il y avait les sites de rencontres quand même sur Minitel.
Buvez des verres, offrez des verres, avec ou sans alcool, comme vous voulez.
Il y avait le chasseur français, il y avait les petites annonces.
Tinder, en général, c'est pour pécho.
On parle avec elle, on devient amis avec elle, et après, ben, plus il y a affinité. Moi, j'ai 13 ans.
La dernière fois que j'ai dragué, c'était en soirée. Il dansait bien, j'ai fait, beau petit boule, tu le bouges bien.
Non, je connais des personnes qui s'inscrivent dans des sites internet. Juste pour un coup de plaisir et c'est tout.
Oh non, ça j'en ai jamais rencontré.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Pourquoi n'avoir pas continué à superviser la série 10% dont vous aviez dirigé la saison 1 et qui était excellente?
C'était mon idée de départ, c'était de lancer cette série, et donc de faire le casting et de participer à la création de cette série et d'ensuite laisser faire. C'était vraiment l'histoire à la fois des scénaristes et des producteurs. Et donc, je n'avais pas envie d'aligner les épisodes. Je trouvais ça bien, le côté très collectif, disons, de la création d'une série.
Et le format série, c'est quelque chose qui vous intéresse toujours? Il y a des rumeurs selon lesquelles l'Auberge espagnole pourrait être déclinée en série pour une plateforme.
Alors pour l'instant, ça n'est qu'une rumeur, mais en tout cas, oui, j'ai envie de faire en parallèle, disons, des séries et des longs métrages. Ouais.
C'est votre prochain défi, on peut le dire quand même. Refaire une grosse série, je veux dire, pas forcément l'Auberge espagnole, mais
oui. Disons que j'aime autant les deux. C'est-à-dire que pour moi, le long métrage, c'est quand même mon métier de base, parce que faire un film pour les grands écrans, pour les cinémas, c'est un autre métier. Et c'est vrai que faire un film pour les petits écrans, faut aller beaucoup plus vite. Donc il y a un côté, je dis souvent que c'est la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter, et que j'aime aussi le prêt-à-porter, disons. Ouais.
En matière de défis, celui qui vous attend maintenant a de quoi effrayer, j'en ai conscience, puisque vous allez affronter Eva Rock en combat singulier. Voici qui veut gagner une centrifugeuse Christophe Ondelat avec ses accessoires.
Des fouets, des cravaches, des combinaisons en latex, sextoy, menottes.
Oui, merci Christophe, on voit l'idée. Cédric Lapiche, vous êtes opposé à Eva Rock. Le quiz est un vrai faux en hommage à votre auberge espagnole. C'est un tour d'Europe que nous vous proposons.
Oh mon Dieu.
Cédric Lapiche, on commence avec vous. En Autriche, à Salzbourg, tous les mois de juillet, il existe le Nacht Klassische Musik Festival. Excusez-moi pour l'accent. Un festival de musique classique naturiste. Les musiciens jouent nus, vrai ou faux?
Vrai.
Faux! Mais c'est une idée à creuser. Ah ouais, j'adore quand ça commence par un piège énorme. Parce qu'en plus, ça pourrait tout à fait être vrai. Ils sont complètement cons, en régime.
Oui, dommage qu'il n'y ait pas pensé.
C'est vrai. Mais maintenant, ils vont le créer. Et Baroque, dans le nord de la Suède, en pleine montagne, on peut trouver un McDo-restaurant d'altitude baptisé Maxki. Vrai ou faux?
Non, c'est faux.
C'est vrai!
Non,
situé
c'est pas
en
vrai.
Haut des pistes, il est même équipé d'un McDrive pour les scooters des neiges.
Oh mais c'est honteux.
Il fallait y penser.
Bah non, il fallait pas y penser.
Bah comment ça?
Bah c'est
la
tartiflette,
vous, la croûte au fromage, non, je le vois dans vos yeux. Attention, vous répondez ensemble une question, trois propositions. En Norvège, le système fiscal présente une particularité étonnante. Laquelle? 1. Les fraudeurs du fisc doivent mettre un autocollant sur leur voiture montrant qu'ils ont fauté. 2. Sur internet, vous pouvez consulter le montant des impôts de tout le monde. Ça serait bien. J'aimerais bien savoir combien il touche Mathieu Charrier. 3.
C'est pas lui qui serait plus surprenant.
Taisez-vous. On peut, une fois dans sa vie, faire payer une année d'impôt à ses enfants. Ils ont un délai de 30 ans pour rembourser la somme. D'après vous, quelle est la particularité?
Allez-y,
du
Cédric Lapiche.
J'espère
que les trois sont fausses.
Pourtant, une est vraie.
Alors, la première est vraie, je sais pas.
Les fraudeurs du fisc doivent mettre un autocollant sur leur voiture. Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Eva?
Et moi, je pense que c'est la 2. C'est le.
Sur Internet, vous pouvez consulter le montant des impôts de tout le monde.
Ouais. C'est-à-dire
que si demain je veux voir les impôts de Cédric, je clique et je les vois.
Je pense que c'est possible.
C'est ça, mais on n'a pas le droit de l'écrire dans la presse.
Oh, vous Axel de Tarlé qui connaît la réponse à un quiz. Mais vous n'aurez pas de point, Axel. Le point ne peut pas aller. Vous ne jouez pas. Et donc, c'est Eva qui remporte ce point.
Ah, mais Cédric n'a pas eu le temps de répondre en même temps.
Si, Cédric a répondu.
Ah, oui, il
a
d'accord.
La réponse 1, il pensait qu'on mettait sur l'autocollant sur la voiture. Eva Rock, en Belgique, qui a vendu le plus de disques de toute l'histoire du pays? Jacques Brel, Frédéric François ou Adamo?
Ah, j'aurais dit Frédéric François.
J'aurais dit Stromae.
Non. Vous dites Frédéric François. Jacques Brel, environ 25 millions d'albums vendus. Frédéric François, 35 millions d'albums vendus. Et Salvador Adamo, 90 millions d'albums vendus. Voilà. Le double, tout simplement. Vous n'imaginez pas la puissance d'Adamo. Mathieu Charrier.
90, c'est pas le double de 35.
Oui, enfin, c'est pas.
Non, mais
excusez-moi. Trois fois plus. Mais vous, des points, vous serez retranchés, mais pour de bon.
Vous êtes dingue.
Dernière question. Cédric Lapiche, en Allemagne, Thomas Vogel détient le record du monde de nombre de soutiens-gorge dégrafés en une minute d'une seule main. À savoir 38, vrai ou faux?
J'espère que c'est vrai.
Oh ouais, cette voix suave me plaît. Eh bien non, c'est faux, mais vous n'étiez pas loin. Pour avoir un demi-point, c'est 56 soutiens-gorge dégrafés en une minute. Beaucoup
ah
plus
oui,
que 38.
Non, elle est pourrie la question.
Elle est pourrie, j'accorde le point
oui.
à Cédric Lapiche.
Bah oui.
En accordant le point à Cédric Lapiche, quel est le résultat de ce quiz?
J'ai perdu.
Égalité, j'aime bien quand c'est égalité. Surtout que ça tombe bien, nous avons deux modèles à vous offrir. Donc deux centrifugeuses, Christophe Ondelat. Vous allez pouvoir faire des plats merveilleux ce week-end.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Et oui, l'équipe est sauvage en compagnie de Mathieu Noël, des journalistes d'Europe 1, Eva Rock aussi, ne l'oublions pas. C'est le rendez-vous bonne humeur de vos après-midi, tous les jours, du lundi au vendredi sur Europe 1 et même le week-end, avec des infos, mais aussi parfois des idées de recettes, et ce, grâce à Olivier Pouls.
Il est un peu notre sauveur tous les jours. Sa spécialité, vous allez la deviner facilement. En effet, lorsque vous entendez quelqu'un s'exclamer
« Vous les fouettez assez violemment, on va dire, avec le sou... »
C'est soit que vous êtes dans une soirée sadomaso dans la cave d'une maison de campagne bourguignonne, soit, et vu l'heure, c'est quand même plus probable, qu'on accueille notre expert en gastronomie de crise pour Délices in Extremis. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Manu Payet, bonjour toute l'équipe.
Alors, bonjour Olivier.
Je vous ai confié une nouvelle mission. Chaque jour, une recette facile de dernière minute et à moins de 10 euros pour deux personnes.
Oui, alors là, je vous vois venir, vous
ça
dites,
va compliqué.
Ça va encore finir avec des pizzas ou des tacos, cette
bah
affaire-là.
Oui.
Eh bien non. Eh bien non, on va travailler un produit saison, c'est le cèpe.
Le cèpe,
oui,
c'est cher.
Bah, c'est vrai que c'est le début, c'est un peu cher, mais en fait, il n'en faut pas tant que ça.
Ah.
J'ai vu les premiers cèpes au marché la semaine dernière, ça tournait autour de 30 euros le kilo. Pour respecter votre deal, on va en prendre 200 grammes à peu près pour 4 personnes. Franchement, 50 grammes de cèpe cuisinés comme je vais le faire, vous les sentirez. Parce qu'on va faire un risotto. Et les autres ingrédients du risotto ne sont pas très chers. Il vous faut un petit peu de riz, alors du riz rond type carnaroli, évidemment. Il vous faut du bouillon, il vous faut une échalote, il faut un petit fond de vin blanc, du beurre et du parmesan. Alors, la recette du risotto, vous la connaissez, c'est pas très compliqué en fait. Le risotto, c'est un peu comme reprendre une chanson de Jacques Brel. C'est, on pense que c'est simple et en fait, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a quelques règles à respecter. La première, c'est donc de travailler avec du beurre, pas d'huile d'olive. Le risotto est un plat du nord de l'Italie, c'est le beurre. On va faire fondre nos échalotes dans le beurre et ensuite on va mettre le riz qu'on va rendre légèrement translucide avant de commencer à mouiller tranquillement, d'abord avec le vin blanc et ensuite avec le bouillon de légumes ou de volaille, en fonction de ce que vous avez. On mouille au fur et à mesure que le riz absorbe, ça dure 20 minutes. Et après, on arrive sur ce qui est la clé absolue du risotto, mantecare. Mantecare, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est la liaison, voilà, c'est la liaison exacte de l'amidon, du beurre froid que vous allez rajouter pour stopper la cuisson, du parmesan et de vos cèpes que vous aurez incorporées 5 minutes avant la fin du risotto, de manière à ce qu'il commence à cuire, mais à ce qui reste quand même al dente. Et là, il y a une espèce de mouvement, un mouvement de valve. C'est comme si vous faisiez sauter des légumes. Vous avez créé une espèce d'onde dans votre grande poêle, parce qu'un risotto, ça ne se fait pas dans une petite casserole, mais dans une grande poêle. Et la liaison va intervenir. Jamais de crème, évidemment, dans un risotto. Il faut le mantecare à la perfection.
Avec une spatule en bois. Vous savez, cette spatule en bois où il y a des petits trous dedans, on se demande
toujours
à quoi ça sert.
Vous n'êtes pas obligé de faire ce geste sur Europe 1 pour faire en vidéo. C'est un geste qui pourrait être interprété de diverses manières.
C'est la spatule en bois pour le risotto.
Voilà. Pour le travail, parce qu'il faut que, il faut pas casser l'amidon et il faut le respecter. Il faut
moi, c'est ce que je dis toujours, ne jamais casser l'amidon,
c'est le premier
truc que je dis. Je préciserai à nos auditeurs que moi j'ai un petit truc en plus, c'est-à-dire quand vous faites un risotto, toujours avoir Olivier Pouls à côté de vous qui vous dit non, là il faut touiller plus, là il faut faire. Tu es sûr, tu veux pas rajouter d'eau, J'ai déjà fait ça une fois, plus jamais je vous fais de risotto.
Europe 1, 16h, 18h,
l'équipe est sauvage.
Et n'hésitez pas à vous replonger dans les replays et les podcasts de l'équipe est sauvage en allant faire un petit tour sur europe1.fr. Dans un instant, c'est avec Wendy Bouchard que vous avez rendez-vous pour faire le tour de l'actu. C'est votre grand journal du soir, 18h-20h, chaque week-end. Excellente fin de journée avec nous.